Eh bien, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Qui veut gagner la flûte à bec, la seule émission du service public qui permet aux gagnants de repartir avec une magnifique flûte à bec. Alors, beaucoup de flûtistes, évidemment, nous écrivent des auditeurs pour nous dire « ça s'entend que vous n'êtes pas flûtiste professionnel », ce que je suis bien obligé de concéder, même si je dois quand même remercier ma prof de musique de collège, Madame Renard, de s'être tant appliquée à nous enseigner le rudiment de l'instrument de la 6e à la 3e, en dépit de ses très nombreuses dépressions et autres crises de larmes. Alors, je vous présente dès maintenant les trois invités avec qui nous allons jouer aujourd'hui. Marina Chiche, Mid et Guillaume Meurice. Je commence avec Marina. Bonjour. Merci d'être ici, Marina.
Bonjour, Thomas.
Marina Chiche, d'être là avec nous. Marina, vous êtes marseillaise. Vous êtes violoniste de renom, puisque vous jouez dans le monde entier. Vraiment, j'ai regardé, vraiment, les gens partout sont là. Hey, Marina, bon. Et vous avez donc c'est dire si j'ai bien potassé votre dossier. Mais surtout non,
ça fait plaisir.
Et surtout non, mais je vous avais récemment animé, co-animé les Victoires de la musique avec la musique classique avec Stéphane Bern. Et comme vous êtes violoniste, je me suis dit et que l'émission s'appelle Qui veut gagner la flûte à bec.
Logique.
Et je me dis la flûte, c'est un peu, enfin le violon, c'est un peu la flûte du cou. C'est un peu un truc comme ça. Bon, c'est un peu, je trouve un peu de choses près. C'est ça. Je me tourne vers notre autre invité, Mid.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Mid, merci d'être là. Mid, après plusieurs singles, vous avez sorti votre premier album il y a 2 mois sur le label Headbanger. Label s'appelle Born Loser.
Ouais.
Loser né. Vous êtes peut-être un loser. Je vous souhaite pas d'être le loser d'aujourd'hui. Quel est votre niveau en flûte, Mid?
Mon niveau est très très bas et on m'a raconté il y a très peu de temps, une amie, elle avait cours de flûte normalement au collège, mais la prof qui disait que tous les élèves étaient à chier en flûte, avait décidé à la place de leur faire un cours de percussion. Et vu qu'ils n'avaient pas de percussion, cet élève a passé 4 ans à taper 2 stylos ensemble en rythme. C'était ça, ses cours de musique.
Est-ce qu'elle payait pour ses cours peut-être? C'était des cours payants?
Non, c'était les cours à l'école.
Bonne nouvelle pour elle. Je me tourne vers notre troisième invité, Guillaume Meurice. Les gens ont peut-être déjà reconnu votre voix. Je ne sais pas, je n'ai même pas vraiment envie de vous présenter, tellement les gens à cette antenne vous connaissent
par cœur. Les gens s'en foutent peut-être avant de l'heure.
Les gens sont lassés.
Oh non, encore lui. Même l'été, le gars revient.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir. Évidemment, vous êtes comédien, vous êtes musicien aussi.
Oui, je préfère qu'on dise rockstar.
Rockstar.
Ouais, c'est plus ça maintenant mon nouveau métier.
La modestie de Meurice, c'est quand même un truc.
Vous venez de terminer votre tournée avec les Disruptives.
Ouais.
Et vous repartez à la rentrée avec votre nouveau spectacle qui s'appelle Meurice 2022. Meurice,
ça sera un autre spectacle.
Ça se passe en 2022. Donc je précise évidemment, vous êtes le chroniqueur qui va sur les marchés. Bon, vous êtes le chroniqueur des marchés de par Jupiter. Mais inutile de dire, les gens, vous pouvez vous faire inviter gratuitement à manger n'importe où, tellement les gens veulent vous offrir du jambon et des aubergines. Alors je fais un petit rappel des règles tout de suite du jeu. Chaque joueur est équipé d'un buzzer. Et j'ai en stock tout un tas de petites devinettes que je vous pose sur l'histoire de la musique et sur la musique en général. Alors je sais pas, par exemple, quelle est la troisième syllabe de quelqu'un qui joue de la guitare? Riste. Bah oui, guitare, ah ouais. Riste, c'est la troisième syllabe.
Ah,
ce sera ça quand même un petit peu plus dur. Et donc à chaque fois que vous avez la réponse,
j'étais pas prêt.
Ah ouais, non, non plus.
À chaque fois,
Stéphanie
vous avez...
de Monaco, hein.
Bah non.
Alors, non.
Ça c'est le buzzer.
Chacun a son buzzer et grâce à ces buzzers, eh bien vous appuyez dessus et vous nous donnez la réponse quand vous croyez l'avoir. Je précise qu'on accepte aussi les mauvaises réponses, c'est-à-dire qu'on a le droit d'appuyer sur le buzzer même quand on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse.
Okay.
Alors, l'essentiel est de ne pas laisser de blanc à l'antenne. Alors voilà, je pense que vraiment n'hésitez pas à nous donner toutes les mauvaises réponses qui vous passent par la tête.
Okay.
France Inter, Thomas VDB, qui veut gagner la flûte à bec?
Apprendre tout en s'amusant. Étendre le domaine de son savoir en vous faisant passer un bon moment, désaltérer sa soif de connaissance en n'omettant pas de vous faire sourire, c'est aussi l'objectif de cette émission. Et c'est parti pour la première question. Alors,
Michael Jackson.
Alors, c'est malheureusement, alors il n'est pas besoin de préciser que c'est Michael Jackson, bravo.
Okay.
J'allais dire qu'il n'est pas besoin de préciser que c'est Michael Jackson. On écoute Beat It qui est sorti en 1982. C'est le troisième single extrait de Thriller de Michael Jackson. Sur ce titre figure un solo de guitare qui est joué par une star du hard rock. Je vous demande quel est le nom et le prénom de ce guitariste.
C'est Van Halen.
Et le prénom?
Jean-Marc.
Yves
Van Halen.
J'avais Jean-Marc, moi.
Jean-Marc Van Halen. Ah, c'est Eddie Van Halen.
Ah, c'est Eddie.
Mais la bonne réponse.
Yves, ça ressemble plus à Eddie en fait.
Et c'est vrai
mais Jean-Marc Van Halen, c'est mon voisin.
Yves, c'est l'équivalent de Eddie en France.
Ouais, c'est ça.
Eddie Van Halen, qui était le fondateur du groupe, qui s'appelait étonnamment Van Halen.
Oui, c'est pas cassé le bonnet, ouais.
Et il s'est.
Donc Jump, c'est... on parle de Jump, OM, allez.
Alors on peut parler de Jump, qui était évidemment l'hymne de Marseille, de l'équipe de Marseille, de l'OM, de foot. Mais donc il faut savoir que le tapping. C'est la technique de guitare qu'il a inventée Eddie Van Halen. Et je ne sais pas si vous saviez ça. Au début, comme tu sais, il joue très très vite. Ouais. D'ailleurs, on peut écouter un autre morceau de Van Halen. Voilà. On l'entend. C'est comme ça qu'il joue. C'est comme ça qu'il joue. Ça s'appelle du tapping.
C'est pas hyper dur à faire.
C'est pas hyper dur à faire.
Guitare deuxième année, quoi.
Et en fait, il a inventé cette technique et il paraît qu'en concert il se retournait pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on voit comment il faisait sa technique.
Ah, d'accord.
C'est un sacré filou.
Ça, c'est vraiment
quand
le mec
même.
Qui cache sa copie quoi.
Ah, sacré voilà. Industriel.
Exactement. Ouais. C'est pas, les gens, c'est pour ça qu'ils disaient souvent qu'Eddie Van Halen avait un côté énervant. C'est parce qu'il cachait sa copie. Et il a exécuté son solo sans être payé. J'ai vu ça parce qu'en fait il pensait que le morceau ne marcherait jamais.
Ah, ouais.
Et voilà, je sais pas si un jour dans sa vie où il s'est levé sans se mettre un coup de poing à lui-même. Tellement il s'est dit, j'aurais peut-être dû demander des royalties. Parce que je pense que le gars s'est plus entendu dans la vie à la radio. En jouant un morceau sur lequel il n'a pas été payé que pour tous les morceaux de son répertoire.
Ça c'est un peu tous les musiciens.
Marina Chiche, est-ce que vous vous rappelez de la, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez vu le clip Thriller?
Bah non.
Non? Vous n'avez pas vu le clip de Thriller?
Je suis même pas sûre.
Ah ok, bon, c'est vraiment, c'est dire si on est vraiment loin de l'univers de Marina Chiche avec cette première question.
Et le clip de Jean-Sébastien Bach, ça vous l'avez vu?
Ah bah ça, il l'a vu, se lever la nuit pour les regarder sur M6.
C'est un créneau. Hein.
Les clips de Jean-Sébastien Bach. On enchaîne tout de suite avec ce morceau qu'on va écouter un petit peu d'abord quand même, histoire de se donner une idée.
Jette ton étoile loin d'ici.
Là c'est vraiment pour les frissons.
Là, je pensais que c'était la clim, mais non, ouais, c'est sa voix en fait.
Alors, alors on écoute.
Frappe, frappe, porte du paradis.
On est dans de la traduction littérale quoi.
On est dans l'univers de la traduction du gars qui ne s'est clairement pas foulé, Eddie Mitchell, qui en 2009 adapte donc la chanson Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan. La traduction pour laquelle il s'est voilà vraiment officiellement le moins foulé de l'histoire des reprises. Et ce morceau, il a fait l'objet de nombreuses reprises, en particulier Eric Clapton, Guns N' Roses, Brian Ferry et beaucoup d'autres. Je vous demande la question, pour quel western cette chanson a-t-elle été composée à l'origine?
L'original ou celle de ou celle d'Eddie Mitchell?
L'original de Bob Dylan évidemment, qui a été composé par Bob Dylan.
Ok, faut dire des westerns au pif quoi.
Alors tu peux dire des westerns au pif, à un moment tu tomberas bien.
Le bon, la brute et le truand.
Non, pas, on saurait quand même parce qu'on a.
Non, moi ouais, je suis nul à la base donc je tente des trucs.
On sait quand même qu'il est pas dedans.
Il était une fois dans l'Ouest.
Non plus, mais alors je pensais vraiment que ça allait, j'étais là, bah Marina Chiche, elle va la trouver tout de suite.
Évidemment. Mais elle est spécialiste de westerns.
Ouais, c'est plutôt les spaghettis que les westerns moi.
Non, je pensais vraiment que les gens allaient trouver tout de suite.
Un truc avec Clint Eastwood, un truc.
Non, des indices, Thomas.
Alors. Un truc avec.
Un retour de. Ça, un retour, retour à machin. Là.
Allez, je vous aide, il est sorti en 73.
Trop facile.
Bah voilà, fallait le dire. Fallait le dire tout de suite, non? Vous l'avez, les gars, non? Je vous laisse attendre, allez.
Il s'agit de Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah, dans lequel Bob Dylan jouait un petit rôle.
C'est pointu quand même.
Ah bah ouais, mais je vois quand même que ça vous empêche un coin. Là, on entend la version originale. Sachant qu'il existe une autre adaptation en français par Hugo Frey et Bernard Lavilliers.
Ah,
et
bah
je
voilà.
Trouvais là, que c'était quand même une bonne idée d'en parler. Ouais. Il y a des gens, je demande que ça intéresse. Yomoris, est-ce qu'on peut parler du point auquel Bob Dylan n'a pas changé votre vie? Quand on regarde tous les gens quand même qui disent, moi, Bob Dylan, il a changé ma vie.
Il a absolument pas changé ma vie, mais il a changé la vie de Hugo Frey, qui a changé la vie de Renaud, qui a changé ma vie. Donc, par ricochet.
Par ricochet.
Ah, on peut dire merci Bob.
Il n'y aurait pas eu Bob Dylan, il n'y aurait pas eu Guillaume Meurice.
Nous marchons gaiement en cadence.
Donc là, si vous êtes en voiture, évidemment, n'hésitez pas à vous garer pour savourer pleinement le moment qu'on est en train de vivre. Alors, on écoute le très émouvant « Nous sommes tous des volontaires
».
Qui est vraiment un des gros tubes du répertoire de la Légion étrangère, qu'on adore. Alors, cette chanson, elle est entonnée pendant les défilés. C'est pas l'hymne officiel.
Ah ouais, ouais, je sais
c'est
ça.
C'est pas l'hymne
ça,
officiel
savoir,
de ce corps de l'armée. Je vous demande quel est l'hymne officiel de la Légion étrangère.
Attention, parce que c'est une bonne réponse, mais ça paraît un peu incongru. C'est tiens, voilà du boudin.
Bravo,
voilà du boudin.
Ah, bravo oui. Guillaume
Meurice.
Ouais,
Meurice. Ouais. Ah, on a un rayon sur le boudin, c'est ça?
C'est pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains.
Mais comment ça se fait?
Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus.
C'est à cause de ça.
Ce sont des tireurs au cul.
Qu'est-ce qui s'est
etc.,
passé?
Etc.
Bah, c'est parce qu'il a dit pour les Belges, y'en a plus.
Enfin, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis passionné de reportages et de documentaires sur l'armée, les formations militaires. Voilà, j'adore ça. Je les connais par cœur.
Mais au point les CRS, de connaître les paroles.
Au point de connaître les paroles.
Alors est-ce que tu sais, est-ce que vous savez ici d'où vient l'expression, l'utilisation de l'expression boudin dans cette chanson?
Alors,
ça c'est vraiment pour les amoureux de culture générale.
apprendre
en s'amusant. Et ben voilà, en fait, le boudin trouverait son origine dans la toile de tente roulée sur le sac des légionnaires.
C'est dingue ça.
C'est vraiment une émission où on fait
on apprend en s'amusant.
Ça je la ressortirai celle-là.
Bah ça, il faut pas hésiter.
Super excellente.
Donc c'est qu'on appelle volontiers du nom de ce produit charcutier. Voilà, comme ça on est quand même assez content de l'apprendre.
Il y a notamment un super reportage, pardon, je vous interromps Thomas, sur la Légion étrangère où ils apprennent à parler donc à étrangers, voilà, avec tiens, c'est une canette de bière. Et donc il répète, c'est une canette de bière dans toutes les langues. C'est vraiment formidable.
Et la séquence est longue ou pas?
La séquence peut être longue. Moi, je l'ai regardé en boucle. J'avoue que je la connais par cœur.
On imagine que ça doit être assez à regarder et pénible. Mais sans plus attendre, jouons tout de suite encore à Qui veut gagner la flûte à bec.
Elle est pour qui, la flûte à bec?
Merci, monsieur Lambert.
Voilà, ils sont toujours avec nous, mes invités.
On est là.
Regarde, c'est vrai, vous êtes toujours avec nous. Le musicien Mid, dont je n'ai pas dit... Enfin, j'ai dit que votre premier album est sorti il y a 2 mois sur le label Headbanger. L'album s'appelle Born a Loser, mais vous êtes en pleine tournée en ce moment.
Tout à fait.
Puisque vous avez joué tout récemment à Rouen, à Toulouse,
machin, c'était génial.
C'est vrai?
Bah ouais, c'était mes premières dates en fait, donc la première fois que je chante sur scène et avec mes musiciens. Donc
et surtout cet album qui doit attendre pour sortir depuis peut-être 1 an et demi, on ne sait pas. Non,
c'est un tout album à fait ça. Ouais, il était terminé il y a 1 an. Donc on l'a sorti petit à petit avec des singles, des EP, mais là c'est ouais. J'attendais depuis un petit moment de le pondre.
Vous serez en concert inter aussi, je crois, très bientôt, le 31 juillet.
Tout à fait.
Je vous l'apprends. Je vous l'apprends.
Non, je connaissais pas. Je l'ai enregistré et il passe.
Vous saviez pas la date à laquelle il est passé. Ouais. Je vous informe aussi, si vous voulez pas noter, qu'il faut bien penser à être à Lorient le 22 juillet pour un concert et à hier le 24 juillet, ainsi qu'à Montpellier le 28. Enfin, j'imagine que toutes les dates sont sur Internet. J'imagine qu'il y a des gens à Clermont-Ferrand, ils vont être là. Il en a pas parlé. C'est le 29 juillet à Clermont-Ferrand. Il y a pas d'autres dates. Marina Chi, j'ai pas parlé de votre actualité, mais il y en a plein puisque vous animez tout l'été sur France Musique la série Musicienne de légende. Tous les dimanches de juillet et août, de 16h à 17h30. Et puisque vous êtes à l'abbaye de l'Épau, là, tout bientôt, le 18 juillet, vous ne le saviez pas? Voilà, ben, au festival de Bussy à Argenton-sur-Creuse, à Saint-Paul-de-Vence en trio, là, c'est pas une ville en trio, mais bon, vous y serez quand même, c'est le 25 juillet, il y a plein de dates.
Ouais,
et Guillaume Meurice. Meurice 2022.
Meurice 2022 au Café de la Gare à la rentrée.
On vous retrouve aux élections présidentielles.
Et aux élections dès que j'ai les 500 signatures, bien évidemment.
Je vous propose tout de suite une autre petite devinette musicale. Marina Chiche commence à s'absenter psychologiquement.
Total, là, bon.
Ça fait partie des morceaux qu'on aurait aimé oublier.
On est en train d'écouter le tube résolument engagé de Scapé, qui est un groupe espagnol formé dans les années 90 qui va connaître un grand succès de l'autre côté des Pyrénées jusqu'au début des années 2000. Ce morceau s'appelle Cannabis. Quel est le deuxième mot du titre qui compose cette chanson?
Deuxième mot du titre?
C'est le mot qui est chanté pendant le refrain apparemment.
Ah bah...
Légalisation.
Légalisation! Bravo, Mid!
Bravo.
Étonnant,
bravo.
Parce que je pensais vraiment que...
Je l'avais, mais je le laissais à Marina Chiche, mais pas sur le coup.
Parce qu'il faut savoir que je sais de Guillaume Meurice depuis très longtemps que c'est un fan de Scapé, donc c'était un petit peu pour lui.
Et c'est un fan de la fumette.
de... Elle avait un petit bédon.
Un petit bédon. C'est pas l'homme de l'artiste.
Ah bah oui, c'est facile aussi. Donc c'est vraiment clairement dans l'espoir de faire réagir Guillaume Meurice que j'ai mis ce morceau. Mais donc Mid, vous avez écouté Scapé également peut-être.
Je l'ai pas écouté moi. Je pense que j'ai jamais appuyé sur la petite flèche qui fait play
mais
pour
vous
ce morceau.
En l'entendant, mais... vous avez dit ah ça je connais.
Ah non mais on me l'a tellement en fait.
Vous avez subi Scapé en fait.
J'ai subi Scapé particulièrement dans au collège dans les booms. C'était vraiment le truc. Il y avait toujours le clan des fumeurs de bédo dans un coin qui prenait d'assaut la chaîne Ifi et qui mettait ce morceau infernal.
Non, 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 on peut pas dire ça. C'est un morceau qui est en avance sur son temps. D'ailleurs, la question n'est toujours pas réglée en France. La chanson est toujours d'actualité. Légalisation.
Ce sera peut-être Darmanin. Pour les élections, ce sera peut-être le morceau d'un des candidats. Je vous laisse deviner lequel.
Mais c'est vrai que quand on sait un petit peu les festivals dans lesquels se sont produits Scapé et quand on sait l'ambiance qu'il y avait dans ces festivals et quand on sait que Guillaume Meurice est fan de Scapé, j'ai beaucoup de plaisir à l'imaginer pogoté dans la bouillasse. Des tatanes, il y a eu ça.
Il y a eu aux Eurokéennes de Belfort, par exemple, le festival de la musique et de la boue.
Là, bien sûr. Ouais. Donc je précise, c'était bien évidemment pour Guillaume Meurice, mais c'est Mid qui marque le point, qui se rapproche de la flûte à bec. Ah, rejouons tout de suite. À qui va gagner la flûte à bec
Voilà, ça.
Ouais. Non ? Non ? Marina Chiche, vraiment, qui lève les yeux au ciel en faisant, mais n'espérez pas.
C'est André Rieu, je pense.
C'est vrai. André Rieu, je crois pas que ce soit du violon. Mais alors là, on écoute un des plus grands jazzman français, qui est le fondateur avec Django Reinhardt du quintet du Yacht Club de France. C'est le violoniste Stéphane Grappelli en train de jouer Lady is a Tramp qui date de 1973.
Double point, c'était une intervention énorme.
Alors, ouais, mais c'était pas la réponse.
Mais et on est alors.
Alors, Grappelli, il a fait appel à un autre géant du violon internationalement reconnu. Je vous demande quel est le nom de l'autre violoniste sur cet enregistrement.
Ah bah là, non, Marina, là, c'est... Voilà, à l'autoroute, là, faut y aller. Hein.
Et c'est pas vrai.
C'est avec Menuhin ?
Comment ?
C'est avec Menuhin ? Non, c'est pas sur celui-là.
Mais bien sûr, c'est... Ah bah... Mais vous le dites.
Je te le dis, Yehudi, Menuhin. Bah,
bien sûr,
Yehudi,
mais oui, mais vous êtes celle sur cette table qui s'y connaît clairement le mieux en autre violoniste, je pense. Et Yehudi Menuhin, Yehudi, voilà, qui est le violoniste un des plus connus, sinon le plus connu. En tout cas, clairement, la personne la plus connue au monde qui s'appelle Yehudi. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres là-dessus. Donc c'est clairement, ouais, c'est un de vos modèles ou pas,
Yehudi? Ah ouais, c'est un très très grand, ça. Ouais.
Et cet album, vous ne le connaissez pas?
Et non, pas ce numéro-là, mais c'est vrai qu'il y a des collaborations assez dingues, ouais.
Je me demandais si cet album était, est-ce qu'on peut dire s'il était connu, que c'était un peu le Dark Side of the Moon des fans de violon. Je me dis,
moi je pense que oui, pourquoi pas.
Apparemment, Marina Chiche est passée complètement à côté de cet album.
J'ai quand même identifié, donnez-moi quand même le crédit quand même.
Évidemment qu'elle a le point. Marina Chiche, je pourrais faire le point sur les scores.
Point sur les points.
On en est à 3, 1, à 3. Ouais, on va dire 3 pour tout le monde.
Si j'avais dit que des points comptent double.
La devinette suivante. Alors ça, c'est pas Yehudi Menuhin. Là, on écoute le morceau Like This du DJ et producteur Chippy. Sorti en 85, ce titre est considéré comme l'un des tout premiers morceaux représentatifs du style que l'on nommera bientôt House Music. Le mouvement House a conquis la planète, mais il est parti d'une ville américaine bien précise. Quel est le nom de cette ville ?
Oh bah là, on peut dire au pif.
Denver.
La première ville qu'on dit américaine, c'est Denver.
New York. Non mais justement, il faut être décalé quoi.
Chicago.
Ah, Chicago ! Ben on sait, on reconnaît. Mais Mid, vous n'avez pas voulu intervenir.
Non, il m'a laissé le sien.
Ah, vous avez échangé Scapé contre Chicago.
Ok. Ouais. Et je garde Scapé, je suis ravi, merci.
C'est assez bon joueur de votre part. Chicago.
Chicago, bien sûr.
Troisième
les débuts
ville.
De la house.
Les débuts de la house.
Ah, Chicago. Et même le nord-est de Chicago, si je veux être un petit peu pointilleux.
Exactement. Alors, Chicago, je précise, troisième ville des États-Unis par sa population. Chicago, elle est au bord du lac Michigan. Et c'est toujours agréable d'habiter au bord d'un lac. Location de pédalo, char à voile, ne serait-ce que tout simplement pour les batailles d'eau. Alors, le terme house music, lui, eh bien, il vient du club de Chicago qui s'appelait The Warehouse, en français l'entrepôt. Alors, Mid est en train d'acquiescer.
Ah, mais bien sûr, évidemment.
Tout ça,
évidemment.
Vous savez ça par cœur.
Ah, évidemment. Ça, voilà. On est obligé un peu, en fait, chaque DJ doit lire un petit bouquin pour avoir son diplôme.
Un petit fascicule.
C'est un gros fascicule, c'est comme une sorte de. Un petit dictionnaire en termes de taille. Et il faut le lire pour avoir son diplôme de DJ.
Ouais. Il y a permis, quoi. Ouais, il y a un permis de DJ. Quoi.
Permis
de
DJ, tout
permis de DJ. Alors, voilà. Et donc, les The Warehouse, qui était l'entrepôt à Chicago où tout le monde allait danser et que les habitués appelaient tout simplement The House. Et donc c'est comme ça qu'on a dit c'est de la house. C'est comme si quelqu'un faisait de la musique dans son grenier. Et après, les gens dans le monde entier diraient « Attends mon gars, ça, c'est un bon son du grenier ouais. !» Et les gens ça bah oui, tu sais d'où ça vient ?» Et voilà. Et après, on fera des questions dans cette émission. Qui veut gagner la flûte à bec ? Alors sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'écouter un morceau. Et bien, ça tombe bien, puisqu'on connaît bien le musicien qu'on va écouter, puisqu'il est autour de cette table. Voici Mead avec « Let You Speak ».
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Eh bien, moi j'en ai autant que je veux des flûtes à bec, mais ce sera donc soit Mead, soit Marina Chiche, soit Guillaume Meurice qui remportera la flûte à bec. On vient d'écouter justement un morceau de Mead. On parlait de house juste avant. Comment vous, quelle étiquette vous donnez à votre musique, Mead, quand vous dites, c'est quoi que tu fais comme musique?
Je dis musique électronique comme ça on peut passer à un autre sujet.
C'était pas contre vous, Thomas.
Non, mais je pense. Ben l'ambiance.
Non. Je disais non, mais c'est plus dans le sens oui, c'est musique électronique parce que c'est principalement fait avec des synthés, un ordinateur et un studio. De musique, quoi, plus qu'un instrument en particulier. Ou...
Et dans le but de faire danser
ouais, toujours. Ouais. Moi, c'est vraiment un des trucs qui est méga important quand je fais de la musique, c'est que ce soit dansant, bonne humeur, quoi.
C'est de la musique de jeune, on peut dire.
C'est de la musique de jeune, mais je vois de plus en plus de gens qui m'arrêtent ou qui me disent qu'ils sont heureux d'entendre cette musique et qui sont de moins jeunes aussi.
Mais
quoi.
C'est vrai que je suis d'accord parce que c'est de la musique, il y a un côté pop dans les mélodies qu'on entend et puis il y a un petit amour des petits synthés moisis quand même, des petits synthés.
J'adore. Mais je prends ça comme un compliment.
Ah, mais c'est absolument un compliment, c'est les synthés qui tournent pas rond et tout.
Des synthés qui tournent pas rond. Après, moi, je me suis mis là sur cet album à chanter. Et donc, c'est ce qui fait ce côté côté pop et ce qui ouvre un petit peu le champ des morceaux. Ouais.
Et vous chantez sur scène aussi?
Ouais, je chante sur scène, ouais. Okay. Je chante, je joue du clavier. Et pour la première fois, je suis frontman, quoi. Là où avant, je suis toujours DJ, mais avant, je me cachais plus derrière les platines à jouer mes morceaux, les morceaux des autres. Là, pour la première fois, je tiens un micro et je parle au public.
Genre ah, entre les morceaux. Ouais. Entre les morceaux.
Alors ce morceau.
Vous avez plu? Il vous a plu celui-là?
Est-ce que ça va Saint-Étienne?
Non mais j'essaie de faire j'essaie de ne pas faire quelque chose, c'est de ne pas expliquer le morceau qui va arriver parce que j'ai toujours trouvé ça assez inutile.
Je l'ai composé pour ma marraine.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, je vous propose de jouer de rechef à qui veut gagner la flûte à bec. Donc ce qu'on écoute là, évidemment tout le monde l'a reconnu, c'est la marche pour la cérémonie des Turcs, le méga hit du compositeur officiel de Louis XIV, Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully, il est mort des suites d'un accident survenu. Oh là là, alors pour les auditeurs quand même, je vais terminer la question, mais Marina Chiche évidemment m'a regardé, elle voulait lever le doigt, elle était là, monsieur, monsieur, tiens, dès qu'elle a entendu le morceau. Jean-Baptiste Lully, il est mort des suites d'un accident survenu alors qu'il dirigeait une répétition d'orchestre. De quoi est mort Jean-Baptiste Lully?
J'essaye de laisser les garçons un peu essayer parce qu'ils galèrent depuis le début de l'émission.
D'un accident alors qu'ils dirigeaient un orchestre.
Et moi, je crois que je le sais aussi.
Ah, c'est vrai.
Bon, alors, je précise, j'ai buzzé la première.
Un projet de l'époque. Les projets de l'époque, c'est les chandeliers. Un chandelier qui tombe sur lui.
Non.
C'est encore plus con, je crois.
Ouais, c'est très
con. Ouais, c'est con.
Allez-y, Marina.
Alors, Marina.
Il s'est tapé dans le pied avec son bâton, puisqu'il dirigeait de l'orchestre. Et des suites de cette blessure qu'il s'est auto-infligée, il a eu une gangrène.
Voilà, ouais, c'est con.
Ça, c'est quand même pas de bol.
Moi, j'imaginais quelque chose de bien plus impressionnant, quoi.
Ah bah, et Jean-Marc, c'est quand même assez impressionnant, tu vois, la musique classique, un peu dangereux, tu vois.
C'est fou. Hein.
Belle gangrène.
Et j'ai noté que c'est le seul point commun entre Jean-Baptiste Lully et Bob Marley, qui c'est tous les deux partis du pied. Parce que c'est vrai que Bob Marley, c'est pendant il a eu un cancer du pied, mais en fait, qui s'est aggravé suite à une blessure dans un match de foot avec des journalistes français, dont la rumeur a longtemps dit qu'il y avait Jean-Michel Larquet. Et donc, moi, plein de gens me disaient... Mais plein de gens me disaient, c'est Jean-Michel Larquet qui a tué Bob Marley.
C'est un raccourci un peu.
Raccourci un peu méchant pour la famille Larquet, qu'on embrasse, si nous écoute. Évidemment, on sait qu'il nous écoute régulièrement, Jean-Michel Larquet.
Il nous envoie des messages,
Envoyez-moi une flûte. Voilà. Donc, c'est bien de ça qu'est mort Jean-Baptiste Lully. Ce qu'on écoutait, c'est donc le morceau. Comment il s'appelait ce morceau?
C'est pas son meilleur, c'est les Turcs.
La marche des Turcs,
Il est un peu bâclé.
Un peu mainstream, ouais.
Des redondances, un peu. Et Lully, j'ai appris ça, il est tombé en disgrâce aux yeux de Louis XIV parce qu'il était homosexuel assumé à l'époque. Et donc, à l'époque, déjà, quand on voit déjà comment il y a 30 ans, c'était pas très bien vu. À l'époque, genre Louis XIV, j'imagine, ça devait être un peu plus compliqué encore. Allez, JB, on pense à toi. Et on joue tout de suite pour gagner la flûte à bec. Satellite's gone up to the sky. Donc, Lou Reed qu'on écoute actuellement. Ah oui, je crois que j'ai donné la réponse. Lou Reed. Donc ça, c'est Satellite of Love qui est sur Transformer de Lou Reed. C'est sorti en 72 et en 92. Lou Reed, ce chanteur new-yorkais qui fut un des fondateurs du Velvet Underground, et il est venu à Paris. Il s'est passé quelque chose de très important pour lui, qui va se passer aussi pour David Bowie en 1999, qui va se passer également pour Iggy Pop en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé pour chacun de ces chanteurs ces années-là?
Il rencontre Francis Lalanne, non?
Pas loin.
Il change la coupe de cheveux.
Non.
C'est un truc physique.
Ça se passe que en France.
Ok.
C'est un truc qui sur quel domaine?
J'ai l'impression d'être aux grosses têtes.
Ah, mais évidemment.
Alors, vas-y, posez-moi la question.
Alors, donc.
Ça s'est passé pour Bowie et.
C'est un truc qui se passe sur scène?
Non.
Est-ce qu'on leur donne une récompense ou un.
Que chevalier de. Légion d'honneur. Légion d'honneur. Non, commandeur.
Des
arts et des lettres. Bravo.
Non, Meurice, tu prends pas le point tout seul.
Je vais prendre ce point.
Non, ça se partage.
Puisque j'ai trouvé la bonne réponse.
Un beau centre de mid à Guillaume Meurice. Parce que c'est vraiment.
C'est moi qui ai fait le centre.
Ouais, mais ouais, moi,
j'ai, non, non, j'ai fait la récupération bien. De balles. Ouais. C'est quand même le plus important.
Mais vous êtes un peu emmêlé. Chevalier des arts et des lettres, quoi. C'est ça qui fait
exactement.
Dire, l'intitulé de la
réponse. Et chevalier des arts et des lettres.
Ah, mais c'est quoi ce sexisme?
Et pour Iggy Pop. C'est vrai que Miguel Maurice criait.
Là, je les ai calmés direct. Là, moi, je pense que j'ai 10 points supplémentaires. Rien parce que je suis là. Ben, attends.
Allez, on met les points à zéro pour tout le monde. Ça y est, pas vrai. Exactement, ils ont été faits chevaliers des arts et des lettres. Et donc pour Iggy Pop, il y a un truc assez étonnant, qui est une anecdote, c'est que j'y étais moi ce jour-là. Eh ouais, vous allez vous dire mais comment ça se fait que j'y étais? Genre, bah, j'avais eu des invités et on m'avait dit tu vas voir les petits fours sont super bons.
Qui lui a remis parce que des fois c'est genre.
Eh ben c'était Christine Albanel.
Voilà. Et il doit être content.
C'est l'occasion d'en rappeler l'existence de cette bonne vieille Christine Albanel. Et elle a été faite, il a été Iggy Pop chevalier des arts et des lettres en même temps que Thomas Fersen et Zazie. Je peux ajouter parce que j'étais là.
À mon avis, il doit être vraiment content, Iggy.
Ah ben Iggy là, il doit avoir le.
Zazie here.
Il est arrivé de demander que ça à la bouche. Donc c'est donc le point commun qu'ils ont aujourd'hui aux côtés de Big Flo et Oli, Frédéric François, Jackie Chan aussi qui s'est fait remettre.
Et nous, on des arts et des Marina, lettres. Vous n'avez pas de, de petite médaille comme ça?
Que dalle.
Oh là là. Genre, bah, gratitude de la France.
Je trouve ça un peu aussi indélicat de la part du ministère de la Culture.
Ça dénonce aujourd'hui.
Rejouons tout de suite. À qui va gagner la flûte avec? Ce morceau, c'est Abbesse, c'est un des titres les plus célèbres du collectif de DJ qui furent les premiers Français à remporter en équipe le grand concours international DMC où s'affrontent les meilleurs scratchers de la planète. Je ne sais pas, vous riez ou vous éternuez, Marina Chiche?
Ah pardon. Elle est émue, elle est très émue. Elle voulait faire scratcheuse en fait à la
base.
On lui a foutu un violon dans les pattes à 3 ans et c'est l'enfer.
Et dès qu'elle a entendu scratch, elle se met à pleurer.
Elle pleure.
Ah là, non, j'aurais tellement aimé en être. Donc le scratch, on va rappeler ce que c'est que le scratch. Bon, voilà, c'est
ça va, merci.
Oui, non, mais c'est pas à vous que je le rappelle, c'est aux auditeurs. Moi, j'ai des grandes tantes qui écoutent Marina Chiche. J'ai des grandes tantes qui écoutent, qui savent pas de quoi on parle. Et donc, je vous demande quel est le nom de ce groupe composé de 4 DJ dont on vient d'écouter un morceau, tout simplement.
Les Fridge Magnets.
Ah, pas
ouais,
du tout.
C'est un truc, genre, je vais juste en laisser quelques-uns à Marina. Pour rendre une vue des noms bizarres. Pour qu'elle et ensuite, je donnerai la bonne réponse.
Les Springs.
Les CD Dolls.
C'est pas loin, vous tournez autour du pot. Allez.
C'est les Birdie Nam Nam.
Mais oui, évidemment.
Ouais, mais c'est parce que c'est une reprise, en fait. Moi, j'avais une autre version en tête.
Birdie Nam Nam. Alors voilà, donc Birdie Nam Nam. Parce que la France, en fait, je savais pas. Elle a fourni beaucoup de vainqueurs au concours de scratch de l'Eurovision. Peu de vainqueurs. Et en fait, il y a Birdie Nam Nam. Ils ont gagné une fois. C2C, 4 fois. 9 O'Clock, 3 fois. DJ Netic et DJ Fly, une fois.
On a une super école de scratch aussi.
On a une bonne école de scratch.
Vous savez.
Scratch sur scène, scratch sur scène. Ouais. Et c'est vrai, non mais c'est fou parce que le scratch, en fait, est-ce que Mid par exemple vous scratchez vous? Alors sur l'album, j'ai pas l'impression trop.
Non, je scratch. En fait, quand j'ai commencé la musique, souvent c'est le quand on est DJ et qu'on veut commencer la musique, on a des platines donc on essaie de scratcher.
C'est pavlovien, t'es obligé de scratcher.
Il faut savoir qu'il faut une technique, comme jouer de la gratte. En fait, il faut déjà séparer ses deux mains, ce qui est pas le truc le plus simple quand on commence. Et donc il faut vraiment être très rapide pour bien scratcher, sinon c'est assez vite. En effet, juste un.
Je viens d'apprendre qu'il fallait une technique pour jouer de la gratte, donc je me remets en question là actuellement. Mais je comprends pas mal de trucs.
Mais c'est vrai que c'est un peu passé de mode le scratch.
C'est un peu ringard.
C'est un peu ringard, c'est ça.
Je pense qu'il y a des eux particulièrement Birdie Nam Nam, ils avaient réinventé le scratch et comment le mélanger à la musique électronique pour que ce soit un peu nouveau et pas que un beat de hip hop et puis scratcher des voix qui font streets.
Ouais. On embrasse tous les DJ qui font du scratch, qui nous écoutent et qui sont un peu blessés, qu'on nous dit que c'est un peu ringard.
Moi je vous aime, mais j'aime scaper en même temps.
On va les embrasser. Toi c'est ton problème.
Le scratch et scaper, ils sont rangés dans le même coin de ma tête. C'est un petit tiroir que je n'ouvre plus.
On va écouter tout de suite un nouvel extrait, regardez.
Aujourd'hui, la nation républicaine s'est réunie pour fêter l'être suprême. Tous ensemble,
qu'on le veuille ou non, on est en train d'écouter un extrait d'une comédie musicale qui s'appelle La Révolution française, qui est sorti en 1973. Et cette œuvre, elle est présentée comme le premier opéra rock français. Elle est arrivée 6 ans avant Starmania. Et le chanteur qu'on est en train d'écouter, c'est celui qui tenait le rôle de Robespierre. dans cette comédie musicale qui était encore alors relativement inconnue du grand public et qui va devenir hyper célèbre à partir du début des années 80. Quel est le chanteur qui jouait le rôle de Robespierre qu'on vient d'écouter à l'instant? On peut peut-être réécouter, on peut peut-être
ouais, on peut un réécouter. Petit peu.
Garou, un truc comme ça, non?
Allez. À partir du début des années 80. Début des années 80.
C'est pas Paul Naref. Hein.
C'est pas Paul Naref. Très connu, hein, vraiment très très connu.
Julien Clerc, non?
Non, bah non, il y a plus de vibrato, attends.
Ouais, mais peut-être au début il y en avait moins. Peut-être il en a rajouté après. Ouais, ouais, on
sentait.
C'est vrai que la voix est quasiment très peu reconnaissable.
Des indices.
Oh là, c'est plus lui. Alors, un indice, ouais, voilà, un indice, je vous le donne en musique alors.
On m'a vu dans le verre.
Ah, ah bon, c'est quand même. Bon, c'est pas un indice, c'est la réponse.
Oui,
en fait,
la réponse, ouais.
Ouais, c'est Alain Bachung qui jouait donc le rôle de Robespierre. Et alors, le reste de la distribution est une pure régalade, puisque Bonaparte était joué par Antoine, des opticiens Atoll.
Ah oui, d'accord.
Il y avait Gérard Blanc, du groupe Martin Circus, qui jouait Danton. Donc là, vraiment, on se dit, ah, non, j'aurais vraiment aimé assister à ça. Gérard Rinaldi, des Charlots, jouait Talleyrand. Voilà, comme
il,
ça, on
il
sait.
Il jouait un excellent Talleyrand, d'ailleurs.
Un excellent Talleyrand, dont on parle encore au théâtre des Studios Gabriel. Et même les frères Guy et Daniel Balavoine dans les chœurs. Et là, on apprend que Daniel Balavoine avait un frère qui s'appelait Guy. J'ai d'ailleurs même fait une recherche sur Wikipédia. Il n'avait pas qu'un frère, il avait plusieurs frères, puisqu'il y avait également Yves et Bernard.
Oh bah, on apprend vraiment des choses.
Et sa sœur Claire, absolument. voilà, une émission où l'on apprend en s'amusant. Ça c'est du pur bonheur, ça.
Ouais.
Là, je ferme les yeux et j'y suis, là. Alors, on écoute. Oh là là.
La brume, le petit matin.
La brume.
Il y a les chevaux.
Le ciré, les bottes. Puisqu'on écoute évidemment Les Honneurs, le morceau Les Honneurs. C'est le nom du morceau, oui. Les Honneurs, joué à la trompe de chasse. Et à ne pas confondre vraiment avec le cor de chasse, attention, qui est utilisé dans la musique militaire et qui est accordé en mi bémol. C'est intéressant,
ça.
On est en ré. Et donc, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la trompe de chasse qui est accordée un demi-ton en dessous et destinée à accompagner les chasses à cours. Donc, on sait que, bon, voilà, on sait combien Guillaume Meurice est particulièrement sensible à cette question. Disons que, voilà, en tout cas, c'est vrai que, imagine, je me dis, quand tu es un chevreuil et que tu entends, ce morceau-là dans ta vie, ça veut dire que c'est mal barré pour le reste de ta carrière.
Le pire, c'est qu'il y a peut-être des chevreuils qui aiment bien. Ils disent, ah, c'est pas mal, mais j'ai crevé quand même.
Ouais. C'est ça. Ils sont là tapis dans les buissons. Et non, mais c'est horrible parce qu'en fait, c'est le seul morceau de musique qu'ils vont entendre dans leur vie. Et ils sont là, ouais, mon joie. Enfin, je sais pas ce qu'ils crient, les gars. Je sais pas s'ils crient mon joie.
Taillot.
Et donc, alors de même qu'on appelle un joueur de guitare un guitariste, un joueur de piano un pianiste, un joueur de football un footballeur, comment, je vous demande, appelle-t-on un joueur de trompe de chasse?
Un trompettiste de chasse?
Non.
Si c'est ça, ça aurait été bien bien nul comme question.
Ça aurait été nul. Bah, la réponse n'est pas exaltante.
Un chasseur, hein.
Non.
Oui, mais quelque part, il est chasseur. Quand même.
Un chasseur, ouais, non, c'est le musicien de la chasse. Donc c'est pas vraiment.
Et lui, il est pas de.
C'est celui qui est vraiment plus de l'artiste.
Je sais pas, des trucs genre les appeleurs, enfin il y a toujours des noms un peu comme ça.
Comment on appelle ça?
Le sonneur.
Faire le rabattage, les rabatteurs.
Voilà, rabatteur, il y a toujours des noms un peu comme ça.
J'ai entendu.
Le sonneur
de trompe.
Là, mais ça, c'est une réponse de bouffon.
Quel beau métier, sonneur. Sonneur de trompe.
Ouais, j'ai répondu à la question Légion étrangère et chasse à cours.
Ouais, c'est vrai.
Toutes les questions de droite.
Alors, il faut savoir que l'art de sonner la trompe. Est entré,
pas, c'est la tradition.
C'est entré en 2015 au patrimoine immatériel culturel de la France. Hein, alors, je pense que ça aurait été étonnant qu'un truc de chasseur entre au patrimoine de l'humanité. Et donc je me dis, et donc l'art de sonner la trompe, et c'est marrant parce qu'il y a sonné, il y a un truc un peu, on dirait un truc du Kama Sutra un peu. Ah, il a une façon de sonner la trompe bien à lui. Donc voilà, et comme le pavillon de l'instrument se place dans le dos de l'instrumentiste, les concerts ont lieu entièrement de dos. Et je me suis dit, c'est le seul point commun entre les sonneurs de trompe et Eddie Van Halen, finalement. Hein, puisqu'on t'en parlait tout à l'heure.
Peut-être c'est inspiré, ouais.
C'est peut-être tout simplement inspiré.
La flûte à bec. La flûte à bec.
Là, tout de suite, je vais vous poser une autre devinette de musique. Et donc, comme toutes les autres que je vous ai faites, il faut que vous trouviez la réponse. C'est celui qui...
Ah oui, on change pas la phrase.
La règle ne change pas pour la question.
Si vous changez les règles du jeu,
non,
moi je peux pas.
Justement, ça ne change pas du tout.
Chevaux, châtain, Jane B.
Donc ça, bah, on a reconnu, c'est Jane Birkin, hein, ça pourrait difficilement en être autrement. Ah là là, oh là là. Marina Chiche a déjà la réponse, je crois qu'elle va nous faire un combo question-réponse. C'est-à-dire qu'elle a entendu, vous connaissez...
Prélude de Chopin.
Oh là 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 là, c'est un prélude de Chopin. Alors quel prélude par contre, vous savez ça?
Oui.
Eh oui, en plus, elle rit non, de ses connaissances tellement.
Non, allez-y, je laisse répondre.
Bah non, ils vont jamais savoir.
Le deux.
Alors attendez, je posais la question quand même pour savoir effectivement quel est le compositeur de musique classique qu'on entend derrière cette chanson de Serge Gainsbourg qu'il a signée pour Jane Birkin qui s'appelle Jane B. Et c'est effectivement le prélude. Opus.
Oh, shame on me, j'ai plus l'opus en tête.
28, numéro 4 de Chopin. Voilà, donc c'est ce même morceau qu'on est en train d'écouter. Et alors c'est marrant parce que Marina Chiche, très sérieusement, je vous ai vu il y a pas longtemps dans cette émission, dans une émission de radio enregistrée dans ce studio à part Jupiter, dans laquelle je vous entendais vous désoler du fait que les jeunes d'aujourd'hui, même si vous en parliez pas comme ça, s'intéressent de moins en moins à la musique classique, ou enfin que c'est dur de générer un intérêt chez tous ces jeunes, hein, les jeunes français.
On rame, hein, quand on parle de musique classique, vous avez vu?
Ouais, c'est justement la question que j'ai pour vous. Quand on voit que le morceau s'appelle Prélude Opus 28 N4, est-ce que le référencement des morceaux de musique classique ne tend pas à rendre les choses plus obtus et incompréhensibles? Est-ce que Prélude 28 N4, comment on veut retrouver ce morceau-là après sur quand on va dans...
Ah non, je suis d'accord. Évidemment, il y a des problèmes de référencement.
Comment on va appeler ça les portes du pénitencier?
Mais vous êtes de mauvaise foi.
Mais je veux prélude donner un numéro précis parce que Opus 28 N4, c'est pas de votre faute. Hein, je vous accable pas, mais
ou un mood.
Non, mais Marina Chiche, vous claquez une sale ambiance depuis tout à l'heure.
Ouais, non, mais voilà. Non, on va régler les comptes après, vous en faites pas les bébés.
Non mais c'est vrai, ça pourrait pas être plus facile d'accès avec des titres plus simples des fois.
Mais elles ont des surnoms, d'ailleurs ce prélude il a un surnom. Non, c'est pas Mélancolie ou Tristesse ou je sais plus quoi. Allez chercher sur Wikipédia, vous allez retrouver ça.
C'est parce que j'ai pas lu toute la fiche Wikipédia.
Je crois qu'il s'appelle Chlamydia. Je suis pas spécialiste.
Ça sonne assez comme ça.
Ouais,
c'est vrai, il y a un petit peu de ça. Alors, ce prélude de Chopin, il a inspiré d'autres compositeurs, notamment Antonio Carlos Jobim, le musicien brésilien, pour un de ses morceaux les plus célèbres. Pourquoi vous rigolez? Alors, c'est vrai.
Chopin, là, on parlait du prochain.
Ouais, Chopin a inspiré le morceau qu'on écoute tout de suite, chanté par Astrud Gilberto. Qu'on embrasse aussi si elle nous écoute. On sait qu'elle aime beaucoup France Inter.
Quand on dit inspiré, à quel moment c'est quand même du plagiat?
Ah non, mais c'est clairement signé. Je pense que c'est marqué que c'est de, sur le, quand on achète
Gainsbourg,
un disque
il
de Jobim.
Pas tout le temps.
Il était là, mais
dans les interviews, il disait oui.
Gad Elmaleh.
C'est vrai.
Oui. Mais des fois, pas l'inspiration. Bon, il assumait plus que Gad Elmaleh, Alors, on est entre l'hommage, le plagiat.
C'est vrai. Un plagiage. On écoute tout de suite un autre morceau de musique et on va écouter justement, on l'écoutait juste avant, Jane Birkin, et on va l'écouter avec un morceau qui s'appelle « Ces murs épais ». Voilà, qui je crois un morceau qu'elle a, paraît-il, composé après le passage de son plaquiste qui a refait toute l'isolation de sa cuisine.
Posé ces fleurs de printemps espèces au vent, jardinière pressée, les yeux noyés comme je les hais.
Rouge. France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Le suspense va croissant puisqu'on se rapproche du terme de l'émission et de ce grand concours à l'issue duquel, je rappelle, eh bien, l'un de vous trois, Mid, Marina Chiche et Guillaume Meurice, eh bien, se verra remettre une flûte à bec offerte par notre partenaire Pierre Flutio. Alors, je rappelle, je voulais faire un rappel des scores, mais bon, j'ai pas oublié de noter, donc on va remettre tout le monde à zéro pour repartir.
Ça fait déjà trois fois.
Comme ça, c'est égalité au moins. On est trois, on est reparti trois fois à zéro. On écoute
une flûte, ça se sépare en trois parties.
C'est ça, voilà.
Donc, moi, je veux bien le cul de la flûte, ça me va.
C'est la flûte. Allez, on écoute tout de suite une petite devinette de musique. Une petite devinette de musique. Donc, on écoute un des grands classiques de Daft Punk, sorti il y a 20 ans, qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger, sur l'album Discovery en 2001. Daft Punk est composé d'un... Donc, c'est un duo qui était maintenant, puisqu'ils se sont séparés cette année, est composé de Guy Manuel, Domène Christo et Thomas Bangalter. Le père de Thomas Bangalter s'appelle Daniel Bangalter, était lui aussi dans la musique, et lui aussi un roi du dance floor, mais pas tout à fait dans le même style que son fils, puisqu'il a été le producteur, compositeur et parolier d'un groupe qui a connu un immense succès en France au début des années 80. Quel est le nom de ce groupe?
Les Forbans, je pense. Je vois qu'un seul groupe.
On n'était pas très loin dans le top 50, mais c'est pas eux. Ouais. Ils étaient pas très loin.
Ah, mais on me l'a déjà raconté cette anecdote, mais je me.
Oui, moi aussi, ça me dit quelque chose.
Oui, non, mais ça convient
très
ça,
très bien.
Moi aussi,
je l'ai sur le bout de la langue. Oh là là.
Début des années 80.
Début des années 80.
La compagnie créole.
Mais oui, c'est la compagnie créole.
Mais non, mais
pas.
Bah, parce que je cherche, ouais, j'ai
vu. Around the world, around the world.
Wow.
Voilà.
Bon, c'est acheté.
C'est bon pour
on peut
le...
se le dire, t'es d'accord?
Ouais.
Franchement, à d'autres. Non, mais c'est acheté, mais on savait depuis le début.
Vous étiez
on
en train
était
de dire, je connais quelqu'un qui m'a dit que, effectivement, l'anecdote, bah, je dis des trucs au pif.
T'es passé devant
80.
Mes fiches tout à
c'est
l'heure.
C'est clair, je l'ai vu. Je l'ai dénoncé même.
Parce que je m'étonne de
Ok, donc vous avez quelque chose contre l'excellence en fait.
Non, mais attends, Guillaume.
Ça, c'est un problème typiquement français, je dois vous le dire, Thomas VDB.
Alors,
vous tirez la France vers le bas, depuis tout à l'heure.
Alors, donc, il y avait la compagnie créole, évidemment. J'ai accepté également une autre réponse qui était tout simplement Ottawa. One more time. Donc c'est-à-dire qu'on voit les ponts qui a été effectué évidemment.
Moi j'ai une sœur qui est née en 75, donc j'ai toutes ces refs là.
Bah ouais, tu as tous ces
Désirless, tout ça.
Tu as tous ces disques
Charlie.
Dans bah oui,
et puis la compagnie créole bien sûr.
Mais c'est fou de se dire qu'il y a peut-être des soirées un peu VIP dans Paris dans lesquelles se côtoient un gars de Daft Punk et un gars de la compagnie créole et qui dit franchement c'est bon pour le moral, la basse elle est sous-mixée. Et voilà, et donc il dit quoi, José de la compagnie créole, il dit franchement tu pourrais parler un peu différemment. On écoute tout de suite une autre petite devinette de Zikmu.
Il y a plus de fruits dans le confipot. Il y a moins de sucre dans le confipot. C'est bon confipot. Je croque et je m'en moque. Vive les tartines et les biscottes. Il y a plus de fruits dans le confipot. Il y a moins de sucre et je m'en moque.
Alors on écoute, bah ça c'est un classique des classiques, la musique du spot publicitaire Confipot diffusé en 86 qui a marqué beaucoup de gens. Ce morceau est basé sur un principe de composition classique qui consiste à reproduire un même motif mélodique sur différents degrés d'une gamme de façon ascendante ou descendante. Je précise, c'est pas moi qui ai écrit les questions. Hein, quand même,
et on tourne tous notre tête vers Marina Fiche.
Attends, j'ai terminé Marina.
Confipot en France.
Je vous demande quelle est la dose de fruits qu'il faut dans Confipot. Il y a moins de fruits dans Confipot. Combien y a-t-il de fruits? Non, alors, quel est le nom donné à ce principe de construction musicale?
Rosalie, marche harmonique, je sais pas.
Ouais. Marche harmonique.
Ouais. Wow, ça claque.
Non.
Mais bravo, non, c'est mais la marche harmonique.
Ouais, 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 on s'incline.
C'est dit avec une telle humilité, Marina, vraiment que.
Telle est classique, en fait.
Alors, je vais lire le petit commentaire que j'ai noté sur la marche harmonique qui peut être modulante. Si elle implique un changement de tonalité.
Mais là, elle est un peu dans Confipot.
Ah non, alors elle est unitonale.
Ah oui, je confonds avec Pompot.
Mais c'est que moi, j'ai un truc avec le cartel de la compote. Donc, si tu veux, marche harmonique combinée avec cartel de la compote, ben... Confipot.
On est clairement dans les choses que vous connaissez. Alors donc, du coup, un autre exemple de...
Pom-pom-pom-pom, quoi.
Un autre exemple de marche harmonique unitonale, bah, c'est ça, évidemment. Plus de fruits en confipote, un peu moins de sucre en confipote. croque, je croque et je m'en moque. C'est bon confit-pote.
Les poils. J'ai les poils.
Oh là 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 là. Yves Montand qui nous a régalé.
C'est ça la marche harmonique.
Oh là là. Ça, se régaler de fruits aussi. Eh bien, bravo à tous, puisque je crois qu'il ne reste plus qu'une seule question, wow. Si je ne m'abuse. C'est la dernière question qui va vous départager, c'est puisque je rappelle que là les scores sont à égalité.
Donc en gros, là comme il y avait un truc pseudo classique, là je suis grillé sur la dernière, on est d'accord.
A priori,
complot.
Je pense que le mieux, voilà, bon, on écoute tout de suite cette dernière de Vinted de Zikmu. On écoute bien évidemment tous ceux qui veulent changer le monde, qui est composé par Luc Plamondon, hein, qui aurait le droit quand même de rester couché ce jour-là. cette musique, elle a été utilisée en 2009 par les jeunes de l'UMP comme support de lip-dub de l'UMP. Donc les lip-dub, c'était ces vidéos un peu promotionnelles où on chante en bougeant ses lèvres sur le rythme, enfin sur les paroles. Et c'est une vidéo vraiment qui n'a pas vieilli d'un iota. Vraiment, ça, je... vraiment, c'est la regarder.
Ouais, ouais.
Toujours l'assurance de passer un bon moment en la regardant. Et dans lequel on voit chanter en playback, pas toujours bien calé. D'ailleurs, tous les ténors du parti de l'UMP, pouvez-vous me donner le nom de trois des membres du parti qui apparaissent dans ce clip?
Bah on en dit un chacun alors.
Oh ouais, c'est vraiment, ils partagent son point.
Oui,
c'est gentil.
Oui,
allez,
allez, allez, sympa, c'est sympa. Allez-y, je dirais le dernier.
Il n'y a pas de perdant.
Je dirais le dernier.
Allez-y.
Oh, allez-y, je fermerai derrière vous.
Allez,
oh, mais quel bonheur de jouer avec des...
Non, Guillaume, commence, lance-nous.
Allez, Ramayad.
Oh, bravo, c'est pas la première que j'aurais dit comme ça. Alors, il y a... Non, il n'y en a pas d'autres qui viennent comme
Nadine
ça.
Nadine Morano, Rachida Dati.
Oh là là, c'est son boulot. Mais tous les matins, il se lève, il regarde le lip dub de lui.
Il y a même une image formidable de Gilbert Montagnier qui conduit une voiture au tout début.
C'est vrai.
Je ne sais pas si au début d'ailleurs.
C'est
vrai.
Ils l'ont gardé.
Ils
sont dit, c'est une bonne idée de garder.
Je crois. Et après, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, il y a Gilbert Montagnier qui arrive en bagnole.
C'est un miracle.
Après, il est parti chercher une place.
Mais c'est pour ça que je votais UMP à l'époque.
Bah oui, je comprends. Alors le lip dub, le créateur du lip dub de l'UMP, il s'appelle Maxime et il a totalement arrêté la politique, tout simplement parce qu'après ce lip dub, il a été exclu à vie de l'UMP.
Et il a perdu son nom de famille aussi. Il l'a enlevé complètement.
Ouais, je sais pas, Choukra, il s'appelle. Officiellement, ce militant a utilisé le logo de l'UMP sans autorisation. Je pense qu'à la base, ils ont dû être un peu vexés de l'insuccès du lip dub qui a quand même.
Mais on en parle encore aujourd'hui.
On en parle. Ouais, mais pour se payer leur tête quand même.
Il n'y a pas de mauvaise publicité, vous savez, Thomas.
Ah bravo. Oh, bravo, c'est une belle phrase.
Il y a
phrase.
Des bad buzz.
C'est une belle phrase sur laquelle terminer cette émission. Donc aujourd'hui, je remercie mes trois invités qui étaient là. Merci à tous de votre bienveillance, de votre grande gentillesse et de votre bonne humeur. Mid, qui, je le rappelle, a sorti son album Born Loser cette année chez Headbanger et qui est en tournée partout en France en ce moment même. Marina Chiche, qui est violoniste, qui a aussi beaucoup de concerts à venir. J'en ai donné déjà quelques-uns tout à l'heure. Remontez un petit peu dans l'émission si vous écoutez le podcast. Remontez avec la petite flèche, là, comme ça vous pourrez écouter les moments où j'en parle. Et Guillaume Meurice, qui, après avoir arrêté son groupe, les Disruptifs...
Révolutionner le rock quand même, au passage.
Oui, vraiment, accessoirement. Et qui, du coup, à la rentrée, part en tournée avec son nouveau spectacle, Meurice,
voilà, c'est mon nom de famille en fait. Meurice 2022, c'est pas très dur. Présidentielle.
C'est pas très dur pourtant. Vous aussi, vous pouvez d'ailleurs, qui nous écoutez, chers auditeurs, gagner une flûte à bec en jouant à notre grand jeu concours de l'été sur Twitter, hashtag flûte à bec, pour gagner, eh bien vous aussi, tout simplement une flûte à bec en reconnaissant le morceau de la semaine. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont et l'équipe, les questions ont été préparées par Sylvain Moser, Jean Rovarino était à la réalisation, Mathias Volant est notre attaché de production. Je vous souhaite un très bon week-end, à samedi prochain, ciao.